Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les terrasses du ciel. Aujourd'hui, il sera question d'un autre grand poète chinois du répertoire, on va dire, classique. Il s'agit de Lu Yu. Je vous fais lecture du livre Lu Yu, le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise, publié là encore aux éditions Mundaren, un portrait suivi de longs poèmes. Alors qui fut Lu Yu? Eh bien, Lu Yu naît le 17e jour du 10e mois de 1125 dans une jonque qui naviguait sur la Huai alors qu'une violente tempête faisait rage. Sa famille est alors en voyage vers Kaifeng, capitale de l'Empire, car son père est vice-commissaire des prévisions du transport du Huainan, la région au sud de la Huai. Il a été convoqué à l'audience impériale. Quelques mois plus tard, les Jurchen, il s'agit d'un peuple non chinois de Mandchourie qui a établi un état appelé Qin à la frontière au nord de l'Empire, alors sous le règne de la dynastie Song, les Jurchen envahissent le nord de la Chine et s'emparent de la capitale l'année suivante. L'empereur et la cour fuient vers le sud jusqu'à Hangzhou, au pays de Wu, qui, devenue nouvelle capitale, est rebaptisée Lin'an, ce qui en chinois signifie « paix provisoire ». Un nouvel empereur monte sur le trône, commence alors l'ère dite des Song du Sud. Malgré de timides tentatives pour chasser l'envahisseur Qin, les Song du Sud finissent par signer un traité de paix dans lequel ils reconnaissent la souveraineté des Qin sur la région au nord de la Huai, berceau de la civilisation chinoise, et ils acceptent en outre de verser un tribut en argent et en soie en échange de la paix. Au cours de ces funestes événements, Lu Cai, le père de Lu Yu, avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses trois fils, dont Lu Yu est le cadet, a lui aussi fui la capitale pour regagner sa maison de Chanyin, son village natal, dans le district de Chaoxing, où est implantée la famille Lu depuis 7 générations. C'est au sud-est de Hangzhou, à l'ouest du lac du Miroir, tout près de la mer de Chine, ici dominée par la chaîne montagneuse de Tiantai. Chanyin est sur la route principale qui mène à Hangzhou. Les voyageurs et marchands ambulants passent la nuit au monastère zen des nuages du Dharma, situé près de la maison familiale. Lu Yu est élevé dans une famille de tradition mandarinale et littéraire. Son grand-père et son père ont même un certain renom en tant que lettré. Son père, notamment, est un célèbre collectionneur de livres de l'époque. Sa bibliothèque est l'une des plus fournies de l'Empire. Il lit à Lu Yu et à ses frères l'histoire glorieuse de la Chine et discute avec eux des différentes formes de gouvernement. Adolescent, Lu Yu, pour sa part, aime déjà beaucoup les livres, et notamment les recueils de poésie. À 14 ans, il tombe sur un recueil abandonné sur un fauteuil par son père, un recueil de Tao Yuan Ming, le grand poète philosophe né en 365, mort en 427, poète amoureux du vin et des chrysanthèmes, mais aussi chantre du retour au pays natal. Et le jeune Lu Yu est vivement impressionné par le ton de cette poésie. C'est donc à peu près à l'âge de 18 ans que Lu Yu découvre la poésie avec enthousiasme, mais surtout une poésie très inspirée par le bouddhisme, notamment celle de Wang Wei. 60 années plus tard, il écrira à 17 ou 18 ans « J'ai lu les poèmes de Wang Wei, ils me sont vite devenus familiers, Mais j'ignore pour quelle raison je les ai mis de côté et ne les ai plus consultés pendant 60 années. Cette année, âgé de 77 ans, les journées étant longues et n'ayant rien à faire, je me remets à les lire et c'est comme si je retrouvais un vieil ami et maître. Jeune, Lu Yu commence à composer des poèmes. Il rencontre même le poète Chang Qi, âgé de 59 ans, alors chef de file des poètes de la capitale. Côté vie personnelle, eh bien, à 20 ans, il se marie avec Tang Wan, sa cousine, son amour d'enfance qu'il connaît, tenez-vous bien, depuis l'âge de 4 ans. Mais Tang Wan ne sera jamais accepté par la mère de Lu Yu, qui est pourtant sa tante maternelle. Elle estime que la passion du couple fait négliger à Lu Yu sa carrière. Par ailleurs, Tang Wan étant stérile, eh bien, elle le contraint à divorcer moins d'un an après le mariage. Lu Yu restera toute sa vie hanté par le regret et habité par le souvenir de Tang Wan, qui devait mourir 10 ans après leur séparation. 2 ans plus tard, malgré tout, il se remarie avec Mademoiselle Wang, qui lui donnera 6 fils et 1 fille, et restera auprès de lui 50 ans, jusqu'à ce qu'elle meure à l'âge de 70 ans. Le père de Lu Yu, Lu Cai, appartient à un groupe restreint d'officiels qui s'oppose avec vigueur au traité de paix qu'il juge humiliant pour l'Empire et en appelle à une action militaire pour libérer le nord de la Chine de l'envahisseur. Dans la maison familiale ont souvent lieu des réunions où l'on parle de rétablir l'ordre et la paix par une expédition au nord et où l'émotion et la tristesse font parfois couler les larmes, nous dit Lu Yu. Dans ces conditions, eh bien, le jeune poète fait passionnément sienne l'opinion de son père. Il étudie d'ailleurs les livres de stratégie militaire et pratique l'art martial de l'épée. Lu Yu a 22 ans quand son père meurt. Lui léguant la plus grande partie de sa bibliothèque de 13 000 ouvrages. À la même époque, Chang Qi, le grand poète, vient s'installer sur la montagne du thé, tout près de la maison de Lu Yu, qui cette année durant lui rendra fréquemment visite, apprenant auprès de lui l'art poétique, tout en parlant poétiquement du monde. « Je me souviens, dit-il, des entretiens poétiques de la montagne du thé. » Au profond de la nuit, j'appris le mystérieux secret, le grand art est dépourvu d'art. Allez comprendre. Lu Yu se promène beaucoup dans la région de Chanying et se rend fréquemment au monastère de la Porte des Nuages où il a tissé des liens d'amitié avec les moines et où il dispose d'une hutte au toit de chaume. Lu Yu, dont le premier fils vient de naître, dans le droit fil de la tradition familiale, commence à se préparer à une carrière officielle dans l'administration impériale. Il est âgé de 29 ans et se présente au concours impérial. Il est reçu premier devant le petit-fils de Qin Hui, le premier ministre. Mais comme son père et lui appartiennent au groupe qui plaide en faveur d'une politique offensive de reconquête alors que le gouvernement est aux mains de Qin Hui, au pouvoir depuis 19 ans, partisan de la conciliation, eh bien, celui-ci fait rayer le nom de Lu Yu de la liste des lauréats et il se voit confier une série de postes insignifiants dans l'est de la Chine. Heureusement, en 1155, à la mort de Qin Hui, Lu Yu voit l'avenir de sa carrière officielle s'éclaircir. En 1158, il est nommé assistant du chargé des affaires maritimes à Fuzhou, dans le Fujian, au bord de la mer de Chine. Très accaparé par son travail, il a peu de temps libre à consacrer à son loisir favori, s'enivrer et composer des poèmes. Eh oui, il est un peu comme Pokuyi, un peu comme d'ailleurs tous les poètes de cette époque, soit des poètes Song, soit des poètes Tang, ils aimaient bien boire en composant des poèmes. 3 ans plus tard, Son mandat arrivant à son terme, Luyu retourne à Chanin, le berceau de la famille. Nous sommes en 1162. L'empereur Xiaochung, favorable comme Luyu à la politique de reconquête du Nord, monte sur le trône. Notre ami Luyu, maintenant âgé de 36 ans, est tout de suite appelé à la cour. Au 10e mois, il assiste à sa première audience avec l'empereur. Il se voit attribuer le titre honorifique de Qin Shi, lauréat du concours impérial dont il avait été injustement privé 8 années auparavant. Pensant avoir l'oreille du nouvel empereur, Luyu lui adresse plusieurs mémorandums concernant la politique gouvernementale. Il demande notamment que soit mis un terme à la corruption dans l'administration, que les condamnations soient adoucies, qu'on cesse d'enlever des enfants pour en faire des eunuques, qu'on contrôle les établissements religieux qui se voient attribuer d'importantes taxes locales. Au printemps 1163, Luyu est nommé au bureau des affaires militaires. C'est là qu'il fait la connaissance de Fan Chengta, du même âge que lui, qui va devenir l'un de ses amis les plus proches. Luyu est déjà renommé comme poète. L'empereur, très féru de littérature, l'appelle le petit Li Po. Li Po, il faut le savoir, est né en 701. On l'appelait l'immortel banni, c'est exactement d'ailleurs la traduction du mot Li Po, et il fut l'un des plus grands poètes, il le demeure, un des plus grands poètes de l'histoire de la poésie chinoise. Cependant, malgré ce flatteur petit Li Po, eh bien, Luyu va souffrir de son franc-parler en dénonçant les cliques qui monopolisent le pouvoir. Il se heurte alors à l'entourage de l'empereur et provoque la colère de ce dernier. Luyu est écarté de la capitale et nommé officier de l'état civil dans la sous-préfecture de Chengyang, au nord de Hangzhou. Mais quelques mois après son arrivée à Chengyang, souffrant, il retourne à Chanin pour se reposer sur sa vieille montagne dans sa hutte du monastère de la Porte des Nuages. Durant l'été 1165, il est muté encore plus loin, à Longxing, au sud du lac Poyang. Avant de partir, il achète 10 arpents de terre au lieu-dit des Trois Montagnes, tout près du lac du Miroir, projetant d'y construire une maison. La région de Longxing est réputée pour la beauté de ses paysages, ses fruits de mer et ses nombreux temples taoïstes, notamment le temple de la longévité et de la prospérité, où Luyu se rend souvent pour discuter avec les moines et consulter les classiques taoïstes. Au printemps 1167, tout se gâte. Luyu est censuré et relevé de ses fonctions. Il retourne à Chanin, où il passe 4 années dans une relative pauvreté. Il se tourne alors de plus en plus vers l'étude du taoïsme philosophique des grands maîtres Lao Tzu et Chuang Tzu, la voie de l'accord au cours des choses. En 1170, à 45 ans, Luyu est tout de même nommé vice-magistrat de Kuichou, sur le long fleuve à la sortie des redoutables Trois Gorges, au pays de Pa, dans l'ouest de la Chine, un périple de plus de 4 mois du milieu de l'été jusqu'à la fin de l'année, pendant lequel il rédige un journal de voyage. Cependant, Luyu, il faut bien le dire, ressent cette nomination comme un exil. Son travail lui laisse peu de temps libre et ne lui plaît guère. Seule l'ivresse, vilain garnement, lui apporte un peu de paix et de réconfort. 3 années plus tard, il est invité à rejoindre le service de Wang Yan, chef de la délégation militaire de Nancheng à la frontière nord-ouest entre la Chine des Song du Sud et les barbares Qin. Au printemps 1172, Lu Yu part pour Nancheng sans sa famille, un voyage à cheval très éprouvant mais dans un paysage magnifique. À Nancheng, vêtu d'un uniforme militaire, il vit au milieu des soldats, animé par l'espoir de reconquérir le nord et de libérer le peuple en zone occupée. En compagnie d'autres officiers, il chasse. C'est un excellent cavalier chasseur, notre ami poète. Il tuera même un tigre qui le charge avec une lance qui transperce le félin en plein cœur. Et puis, en plus des fréquentes chasses, il passe son temps à écrire, à chanter des poèmes et à boire dans les tavernes en compagnie et des courtisanes. Mais ce bon temps n'a qu'un temps et Lu Yu est muté en tant que conseiller militaire à Chengdu, la ville du brocart, capitale du pays de Chu, 8 mois seulement après son arrivée à Nancheng. Je poursuivrai le récit de la vie de Lu Yu la semaine prochaine, mais à présent, je vous propose un avant-goût de sa poésie. Les poèmes qui suivent furent tous composés par Lu Yu dans sa retraite de Chanyin au bord du lac du Miroir, de 56 à 84 ans. Premier poème, La Nouvelle Éclaircie. J'ai raccroché ma coiffe officielle pour accomplir au bord du lac mon vœu initial. Insouciant, je me caresse le ventre. L'aise abonde. Le potage cuisiné avec des légumes sauvages est naturellement savoureux. Sur le chaume de la maison, l'herbe pousse. Ma demeure est tranquille. Des tavernes, je suis un familier. Dans toutes, on me fait crédit pour le vin. Les voisins sont affables, ils me prêtent volontiers leur âne. La nouvelle éclaircie me réjouit. La fenêtre est pleine de soleil. J'étiquette et range les livres de toute une étagère. Un repas de légumes composé pour m'amuser. Les poireaux de Xintin sont sous le ciel sans égal. Plus de 3 pieds de long, de la couleur du noix jaune, la viande de porc de Tongmen aussi est extraordinaire, grasse et belle tout autant que l'agneau, barbare fondant. Ces choses nobles et précieuses ne sauraient être mélangées aux condiments ordinaires. On les cuit sur un feu de cannelier avec des grains d'orge ronds comme des perles. De retour au pays de Wu, je n'ai plus accès à ces saveurs. Le repas est composé de riz grossier et de poissons séchés grillés. Dans cette vie d'homme, pourquoi accorder tant d'importance à la bouche et au ventre? La plupart du temps, ils asservissent ce corps de 7 pieds. Aux viandes et aux épices, dorénavant, je renonce. La nuit, je cuirai des cailloux blancs en annotant des livres de stratégie. À l'attention des visiteurs. Dans l'ombrage formé par les mûriers, l'odeur de 100 plantes. À midi, dans le vent frais, le bruit des rouets sur lesquels sont dévidés les cocons de soie. Visiteurs, ne parlez pas des affaires du monde. Mieux vaut avec la montagne et la forêt partager cette longue journée d'été. Le pavillon de l'allégresse suprême. Dans la poussière jaune et le soleil ardent, la sueur a trempé mon vêtement. Au milieu des bambous, on prépare le thé. Ma joie est à son comble. Il convient d'en rire. Le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise a eu une idée de génie. Emprunter ton pavillon sur l'étang pour y consulter tes livres. Amarrant ma barque près de la taverne, au pied du pont, sur le lac. Des nuages vaporeux enveloppent le pavillon peint. Au seuil de ce vaste flou pluvieux, ma barque en magnolia. Qui croira le vieillard assez fou pour accaparer seul au sud de la ville 10 lits d'automne. Le jardin potager. Vieil homme de la montagne, dans ma vieillesse, j'ai appris à jardiner. Me moquant de ma propre maladresse, à peine 3 arpents de terre pierreuse et stérile. Pour le labeur, j'ai engagé 2 hommes. Le carré de terre, divisé en plates bandes, ressemble à un échiquier. À peine humecté, le sol devient comme du beurre fondu. On a coupé et dégagé le terrain jusqu'à ce que ronces et buissons soient exterminés. On a houé et hercé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni pierre ni motte. Au-dessus du fossé, on a placé un tronc en travers pour faire un pont. Avec des tuiles glanées, on a construit une petite pagode. Sur la terre encore libre, on a dressé des tuteurs pour les courges. Avec l'énergie en reste, on a planté un carré de tarot. Les jeunes pousses de laitue forment déjà un fil mince. Les courgettes cuites à la vapeur sont fondantes comme du canard. L'affaire est aujourd'hui bien engagée. Ce n'est pas pour les perches que je suis retourné à l'est. Le petit jardin. Dans le petit jardin, les herbes, comme de la fumée, gagne la maison voisine. À l'ombre des mûriers, le chemin est sinueux. Allongé à lire des poèmes de Tao Yuanming, bien que n'ayant pas encore terminé le rouleau, je profite de la pluie fine pour aller biner les courges. Après la pluie, je me promène dans le jardin. Dans ce pays d'eau, le givre est tardif. Les arbres ne sont pas encore dépouillés. Avec l'arrivée de l'automne, je me rends compte combien j'apprécie ma maison. Le vert luisant des feuilles des bananiers incite au jeu de l'encre. Je m'amuse à calligraphier en style cursif près de la fenêtre lumineuse. 3e jour du 9e mois, voguant sur le lac, composé dans le bac. Les enfants me suivent en riant de ce fou de vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise, qui se rend encore sur la rive du lac pour monter sur le bac de campagne. Des familles vendent du poisson dans le soleil du crépuscule. C'est la saison des chrysanthèmes, bientôt le premier givre, rangée sur rangée d'arbres rouges, soirée d'automne sur la montagne. La bannière bleue de la taverne flotte, se répand le parfum du vin du sacrifice d'automne que les voisins ne refusent pas de s'enivrer avec moi. 10 années durant, j'ai passé la fête du double 9 en pays étranger. Chanson du sommeil, une fois ivre, composée à l'âge de 56 ans. Le vieil homme, dans ces années crépusculaires, à peu de passe-temps, je désire seulement être sans affaire et dormir toute la journée. Le vent violent et la pluie cinglante sévissent. La petite chambre à la fenêtre basse convient à ma quiétude. Le poêle qui rougeoie et le vin vert suffisent à satisfaire ma vie oisive. Les oranges jaunes et les crabes pourpres sont au summum de la fraîcheur et de leur parfum. Coupe après coupe, la fatigue survient. Sans attendre, j'ouvre la tenture en papier et me jette sur la couverture barbare. Mon ronflement fait vibrer toute la maison. Le livre que je tenais tombe par terre. Je ne me soucie guère que les inspecteurs rapportent que je suis souvent ivre et ne fais pas plus attention aux moqueries de mes jeunes amis à propos de ma bedaine. À étudier les livres, 10 000 rouleaux, une fois vieux, j'ai enfin compris, mais cette recette merveilleuse et secrète ne se transmet pas. Suis-je sobre ou suis-je ivre? Personne ne peut le deviner. Ni en train de rêver ni éveillé, mais parfaitement lucide, passant tel un cheval au galop, les 100 années sont fugaces comme la rosée ou l'éclair. Toute cette époque tumultueuse se consume comme l'huile d'une lampe. De l'élixir de longue vie qu'il faut 9 fois raffiner, je n'ai pas le loisir de m'occuper. J'ai plutôt, en ce bas monde, la réputation d'être un immortel du sommeil. La nuit, allant puiser de l'eau pour préparer du thé, poème composé à l'âge de 56 ans. Convalescent, j'ai arrêté de lire des livres et reste les mains dans les manches, dans la longue nuit fraîche. Les 4 voisins sont silencieux, plus un seul bruit. La flamme de la lampe vacille. Le garçon de montagne aussi dort profondément. Je vais puiser de l'eau moi-même pour préparer du thé. Comme un carillon, le bruit du treuil. Profond de 100 pieds résonne le vieux puits. Mes poumons et mes viscères tressaillent, tant le froid est pénétrant. Poils et os aussi sont transis. De retour, le clair de lune inonde la véranda. Je prends soin de ne pas fouler l'ombre du prunier dépouillé. Voilà, c'est un exemple de cette magnifique poésie de Lu Yu. Vous retrouverez l'intégralité de ses poèmes ainsi que la présentation de sa vie dans Lu Yu, le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise, publié aux éditions Mundaren. Et si vous avez du temps la semaine prochaine, je vous raconterai la suite de l'histoire de Lu Yu. À très bientôt.
Such a strange vibration.